Revue de presse de l'April, semaine 16, année 2013. Salut Nicolas.
Salut Luc.
Alors on s'est débarrassé de ce salaud de Manu.
De Manu qui est en vacances, en congé, au soleil.
C'est lamentable. Donc 5 articles, donc petite revue de presse.
Petite revue de presse.
Et on va faire court. Donc on parle encore du ministère de la Défense et de Microsoft. De nouveau, on en parlait ces dernières semaines du gouvernement britannique et de son engagement auprès du Libre. On parle de GitHub, on va parler également de brevets et de patent trolls. On reviendra sur cette question des DRM dans HTML5. On va expliquer en quoi ça consiste exactement. Donc, premier article.
Le 20-20h, l'armée accro à Microsoft. Un article du 20-20h.
De la rédaction, oui.
De la rédaction. Donc, ça fait suite à la question qui a été posée par l'April sur l'accord Open Bar Microsoft. Et le 20-20h a pu communiquer les documents qui avaient été communiqués à l'April, mais complètement caviardés.
Donc, elle les avait en version...
En version originelle, non censurée, on va dire. Et là, c'est un rapport qui a été publié, qui, en fait, critique très fortement Microsoft, que ça fait une solution qui enfermerait...
un rapport interne au ministère,
interne
de,
au
de,
ministère
défense,
de la Défense. Ouais. Qui enfermerait l'armée technologiquement, qui... conduirait à avoir à être complètement dépendant de puissances extérieures, ben en l'occurrence des États-Unis, à se faire contrôler par la NSA. Donc
il y a eu une interview de Jan, une de nos permanentes, sur le sujet. Le sujet est passé au 20-20h, donc c'est une émission de télévision.
Il y a eu des articles dans pas mal de journaux. C'est vrai que ça, on en parle beaucoup dans les, donc aussi bien sur les blogs, les forums, à la télé, dans les journaux. C'est quelque chose qui, en période de crise, je pense que ça passe assez mal de voir plusieurs millions d'euros comme ça partir à l'étranger. Et puis surtout là, enfin l'armée déconseille. Enfin, le rapport interne déconseille très fortement Microsoft. Et pourquoi alors y a-t-il eu un accord open bar derrière? C'est la question. La
bon,
question
petit détail même. Amusant, c'est qu'on aime bien parler de la gendarmerie nationale, donc, qui est un corps de l'armée et qui est passé au logiciel libre et qui, sur ce coup-là, ne fait pas de commentaires, on les comprend. Leur situation est un petit peu délicate.
Donc, le MAG-IT, le gouvernement britannique nomme un comité des standards ouverts par Cyril Chausson.
Donc on avait expliqué que le gouvernement britannique avait pris des positions fortes et engageantes pour déployer, alors d'abord avoir dans l'interopérabilité, c'est-à-dire avoir des formats informatiques qui soient lisibles, éditables par n'importe quel logiciel, ne pas être enfermé auprès d'un éditeur, et avoir du logiciel libre autant que possible, et donc bah là c'est la mise en œuvre, c'est la mise en pratique.
Voilà, c'est la mise en pratique, donc ça va assez loin, c'est assez intéressant comme concept. Donc ils ont mis en place ce qu'ils appellent le Standard Hub, qui est un espèce d'énorme, on va dire forum, je sais même pas trop comment le qualifier. En fait, ça ouvre la possibilité aux simples citoyens de s'exprimer aussi sur le sujet, de donner son avis, de donner son ressenti. Et puis donc, ils vont travailler sur tous les formats de standardisation, donc avec les formats ouverts, le choix des solutions informatiques dans leur industrie. Ils ont planché aussi, bah, par exemple, le passage d'IPv4 à IPv6, donc ils sont extrêmement transparents sur le sujet. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant, qu'il faudrait voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme ça en France, ça peut être...
Voilà, c'est un bien bel exemple. Nous, on était très contents de la circulaire Hero, mais on voit avec cette question de ministère de la Défense que la mise en pratique n'est pas évidente. Donc là, on a vraiment un exemple de... Ça va au-delà des principes, hein, c'est mis en place, il y a des structures qui sont là, des gens qui sont responsables, des budgets, et un mouvement vraiment bien sympathique.
Le journal du net, GitHub, une majorité des projets non open source, par Antoine Crochet-Damet.
Donc GitHub, on le rappelle, on avait lu un article là-dessus, c'est une sorte... Enfin, ça se présente comme un réseau social de développeurs, donc ce sont des outils qu'on connaît dans le monde du développement, qui permettent en gros de gérer les différentes versions de code, d'être à plusieurs à contribuer dessus, mais avec voilà, un emballage facilité, un truc accessible par Internet, bien entendu, et toute une série d'outils qui rendent l'utilisation de ces outils-là plus sympa, plus facile.
C'est ce qu'on appelle une forge logicielle, donc ça permet de centraliser toute la gestion d'un projet. Là où GitHub a vraiment révolutionné le domaine, c'est qu'ils ont fait rentrer beaucoup de social dedans. Donc il y a beaucoup de liens entre projets, il y a beaucoup de communication, il y a des wikis, des choses comme ça. Et donc là, l'article en question...
Mais à l'origine, c'était un truc vraiment pour le libre.
C'était pour le libre, enfin oui, c'était une alternative à SourceForge, une ancienne forge qui était un peu obsolète. De toute façon, les projets non libres peuvent pas profiter de GitHub gratuitement, il faut payer. Et puis là, donc le constat, c'est qu'il y a un scientifique a regardé les différentes licences qui étaient utilisées par GitHub, des logiciels.
Il a utilisé un outil qui fait ça sur une partie, puisqu'il ne pouvait pas tout télécharger.
Ouais, il ne pouvait pas tout télécharger.
Mais en tout cas, il analysé, je crois, 28% dans ces eaux-là, hein, en gros à peu près 30% des projets, pour voir quelles étaient les licences. Et il a trouvé que bah, c'était quand même très très flou, voire pas libre du tout.
C'est pas libre ou mal librifié, on va dire. Il y a des problèmes, ils n'ont pas complètement respecté la manière de libérer un logiciel. Les licences sont généralement pas copyleft. Donc,
ça peut être libre sans être copyleft.
Ça peut être libre sans être copyleft, mais bon, il y a un peu un gros bordel là-dedans. C'est une plateforme où on peut trouver du libre, mais il y a aussi beaucoup de pas libre dedans.
Un des trucs qui est dit contre GitHub, c'est que GitHub lui-même n'est pas libre. Voilà. Donc une plateforme sans doute très intéressante, mais manifestement de moins en moins dans le libre.
AGFI.com, patent troll et autres dérives, risque important pour le système de brevets, par Michel Jacquard et Juliette Ancel.
Donc c'est un site suisse, hein, il faut préciser. Je ne sais pas quelle est la législation sur les brevets logiciels en Suisse. Peut-être que chez eux c'est reconnu. En tout cas, c'est un article qui va expliquer ce qu'on a déjà évoqué, hein, sur les dangers des brevets logiciels. Et en revenant sur toute l'actualité depuis 2 ans, de batailles de géants, de procès à n'en plus finir avec des millions et des milliards en jeu. Et il parle des patent trolls, plus voilà. Particulièrement.
Donc les patent trolls, pour rappel, c'est des boîtes qui sont là mais qui ne font rien, sinon racheter du brevet et s'en servir derrière à coup de procès. Pour essayer de rentabiliser leur fonds de commerce.
Voilà, donc c'est juste des juristes et leur fonds de commerce, c'est de faire du contentieux avec essentiellement des PME, même si des grosses boîtes peuvent être touchées. Et bon, voilà, il y a une constatation de l'effet très négatif que ça peut avoir. Le fait qu'aux États-Unis, il y a des solutions qui sont mises en place avec quoi déjà, notamment cette idée d'avoir des entreprises qui s'engagent à ne pas attaquer d'autres entreprises.
Oui, Google aussi avait lancé aussi des idées comme ça. Twitter avait fait ça en disant tous nos brevets à nous, on s'en servira que de manière défensive, on n'ira pas à l'attaque. Donc si vous nous cherchez, on va vous attaquer, mais autrement...
Voilà, il y a d'autres solutions plus juridiques, avec notamment un juge qui dit que le système des brevets est inadapté au monde du logiciel notamment, et qu'il faudrait distinguer en fonction du milieu, là où ça a du sens, là où ça n'en a pas. Enfin, tout ça reste assez compliqué. Bon, et cet article a l'intérêt de pointer ce gros risque du brevet logiciel.
Voilà, et puis là, je pense que la partie intéressante, c'est vraiment qu'ils sont pas contre le brevet sur la partie, qui le justifie vraiment. Ils donnent l'exemple du pharmaceutique.
Il y a des
gens qui contestent ça, mais c'est vrai que le pharmaceutique a des coûts d'investissement assez importants en termes de matériel et autres choses, et donc ils aimeraient bien pouvoir avoir leur rentabilité.
La durée de vie d'un médicament est plus longue.
La durée de vie d'un médicament très longue. Donc ils aimeraient bien avoir leur retour sur investissement via un brevet qui leur permettrait de se rentabiliser. Mais ils disent bien, dans le logiciel, il n'y a pas du tout ce coût-là, et donc ça n'a pas d'intérêt. Le coût d'un logiciel en lui-même, c'est négligeable.
Puis
donc,
la durée de vie du logiciel est beaucoup plus courte. Et en plus ça, autre truc qu'il ne cite pas dans l'article, c'est que le nombre d'acteurs est infiniment plus important. On se doute que dans la recherche pharmaceutique, la sidérurgie ou des trucs d'industrie assez lourdes, on a très peu d'acteurs, donc cette notion de brevet, elle est assez facile à manœuvrer. Dans le logiciel libre, on s'est aperçu sur pas mal de procès qu'il y avait plusieurs brevets qui couvraient la même chose, parce qu'il y a des millions de développeurs dans le monde.
Et du coup, pas de contrôle possible, ou très peu,
ça devient une usine à gaz.
Alors, développer.com, la FSF proteste contre l'ajout d'une API pour la DRM à HTML5 par le W3C et lance une pétition pour l'interdire, par Stéphane Lecalme.
Un article de plus sur ce qu'on a évoqué, je crois, depuis au moins 2 semaines. Le W3C, c'est cet organisme qui est là pour décider des normes qu'on applique pour faire fonctionner Internet. C'est vraiment cette partie infrastructure, le langage HTML qui est un des langages utilisés pour faire des sites Internet. Et jusqu'à maintenant, ça a toujours été complètement ouvert, donc libre, et avec cette idée qu'on peut voir le code source des sites sur lesquels on va. C'est quelque chose que le grand public utilise assez peu, mais on peut à tout moment voir comment c'est fait. Donc c'est des principes élémentaires qui ont permis à Internet d'être ce qu'il est.
Voilà, et là, donc le W3C, on suppose, sous la pression des lobbies, a voulu intégrer dans le futur version d'HTML5, des DRM, donc des logiciels, des outils de protection des droits, ou de privation des droits, pour être plus exact.
Qui permettent en fait de bloquer...
Qui permettent de bloquer la lecture d'une vidéo qui va permettre de restreindre les droits à telle ou telle plateforme, à un tel nombre de lectures.
Voilà ce qu'on connaît aujourd'hui dans la vidéo à la demande. Voilà. Et là, ce serait intégré directement dans le HTML, donc directement dans une des infrastructures d'Internet.
Alors après, il donne l'exemple aussi de Netflix, par exemple, qui est un énorme fournisseur de VOD aux États-Unis et qui serait prêt donc à arrêter d'utiliser Silverlight, donc une technologie propriétaire de Microsoft, pour faire du HTML5 théoriquement ouvert, mais uniquement s'il y a les DRM présents à l'intérieur.
Alors, on n'est pas certain de gagner au changement.
Donc entre du privateur et du privateur, il y a du privateur.
Donc c'était une petite revue de presse. Eh bien, Nicolas, merci.
Et à la semaine prochaine, tout le monde.
Salut.